Alors, tout d'abord, on regrette l'absence de Raymond de Moulin, dont l'état de santé ne lui a pas permis de se déplacer. Elle le regrette infiniment et elle tenait à nous le faire savoir. Elle a demandé à Pierre-Michel Menger de prendre la parole en son nom pour évoquer le Centre de sociologie du travail et des arts que Pierre-Michel, vous avez dirigé entre 1993 et 2005, c'est ça ? Et vous avez donc pris la succession de Raymond de Moulin. Pour ceux qui ne connaissent pas Raymond de Moulin, elle était directrice de recherche et directrice d'études au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, auteur de très nombreux ouvrages de référence, depuis Le marché de la peinture qui avait été édité en 67, et fondatrice donc de ce Centre de sociologie des arts, devenu un an plus tard le Centre de sociologie du travail et des arts, donc qu'elle a dirigé jusqu'en 1992. Donc, Pierre-Michel, je pense qu'ensuite, vous basculerez sur votre propre communication. Je voulais dire quelques mots, sachant que vous avez été le doctorant de Raymond de Moulin, avant donc de prendre sa succession. Vous êtes professeur au Collège de France depuis 2013, directeur d'études à l'EHESS, auteur de plusieurs ouvrages sur la sociologie de la musique, dont le très remarqué « Paradoxe du musicien », je parle en mon nom, paru en 1983, réédité en 2001, avec depuis cette enquête fouillée, creusée sur le travail créateur et l'ouvrage paru sur ses conditions d'exercice, « S'accomplir dans l'incertain », publié en 2009, une sorte d'écologie sociale du travail et créateur. Donc on a le plaisir de vous écouter et comme témoin de l'action de Raymond Moulin et de son œuvre et puis sur votre communication.
Merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, comme je vais parler deux fois, mais je ne parlerai pas en mon nom d'abord, il faudra que vous me donniez des indications de temps pour éviter que ça se transforme en une sorte de récital un peu absurde, puisque j'enchaînerai par mes propres paroles. Donc, Raymond de Moulin regrette beaucoup de ne pas être présent, mais je lui ai parlé longuement, et donc elle m'a donné quelques indications qui m'ont servi à produire ce que je vais vous présenter. Je vous propose trois choses. D'abord, de dire quels sont les deux livres piliers de son œuvre qui ont en quelque sorte marqué la création de ce qu'on peut appeler une sociologie du monde des arts plastiques, de la peinture, à travers l'analyse de ses marchés, mais pas seulement, vous verrez. Et ensuite, qu'est-ce qu'a été le creuset de cette affaire qui a été, puisqu'il a été question de monographie, d'institution ou de laboratoire et de centre, je parlerai à sa demande de ce qui s'est fait au Centre de sociologie des arts, et notamment pour y inclure des autrui significatifs auxquels elle tient beaucoup, comme Jean-Claude Passeron. Et puis, je dirais enfin pourquoi, selon elle, la sociologie des arts a pu progresser, s'étendre et s'amplifier, et quel rôle elle y a joué elle-même. Ça, c'est à mon initiative, mais je lui donnerai la parole parce qu'elle ne voulait pas que je parle trop d'elle-même. Mais voilà, c'est difficile. Alors, pour évoquer l'œuvre et la personnalité scientifique de Raymond de Moulin, je vais me référer à deux livres très connus, « Le marché de la peinture en France », 67, qui a été traduit aux États-Unis, et l'artiste, l'institution, le marché de 92. Si l'on met à part un article théorique qui est devenu fameux de Bourdieu sur le marché des biens symboliques, je crois que le premier livre de Raymond de Moulin est à vrai dire le seul exemple français de sociologie empirique de la production de l'art, et en tout cas le seul pour les arts plastiques, avant les années 80, pionnier, totalement novateur et pleinement convaincant. Évidemment, on peut m'accuser d'avoir quelques biais d'évaluation, mais ça a été tellement corroboré que, bon. Ce livre, qui a été publié d'ailleurs par Bourdieu dans sa collection des éditions de minuit, était issu d'une thèse dirigée par Raymond Aron. Et Raymond de Moulin était une agrégée d'histoire qui s'est décidée à étudier la condition d'artiste. Et c'est Aron qui lui a dit, pour étudier la condition d'artiste, il y a un grand sujet, c'est le marché de l'art, il faut y aller. Et donc, c'est ce qu'elle a fait au CNRS. Et je vais lui donner la parole pour expliquer la situation de la sociologie au moment de son entrée en carrière. C'est une sorte de généalogie de la sociologie de l'art, dont l'école des études est certainement le creuset le plus important. Mais voilà ce qu'elle dit dans un entretien paru en 94. Les chercheurs, d'abord sur la sociologie elle-même, les chercheurs en sociologie, à l'époque, fin des années 50, début des années 60, étaient d'origine très diverses. Les uns avaient fait des études de philosophie, les autres des études d'histoire, des études commerciales ou de sciences politiques. Il y avait à Paris deux pôles de recherche. Le plus ancien était le Centre d'études sociologiques, avec les professeurs Friedman et Stetzel. Pour les sociologues, tout le monde sait qui ils sont. Le second pôle se situait autour de Raymond Aron, dont il a déjà été question. La sociologie de l'art proprement dite était représentée par Pierre Francastel, pour lequel avait été créée à l'École pratique des hautes études la première chaire de sociologie de l'art, ici même, donc, enfin, dans l'ancêtre de l'EHESS. Et pour expliquer ensuite ce qu'elle a fait elle-même, elle explicite les méthodes et les outils théoriques. Et elle les rappelle, ça a été l'objet de l'introduction de son livre. J'ai décrit la manière dont s'est déroulée cette enquête. Enquêter sur le marché de l'art, c'est un sport extraordinaire. C'est certainement pas un sport de combat, c'est un sport de jeu à fleur et moucheté d'une subtilité infinie, croyez-moi. Donc elle a pratiqué observation participante, entretien, analyse documentaire, étude de cas. C'est en ethnologue que j'ai pénétré cet univers d'initiés pour comprendre les mouvements capricieux des valeurs artistiques et les contraintes dont sont justifiables les créateurs. L'ouvrage lui-même résulte d'une approche pluridisciplinaire. Il comporte, c'est un mot qu'il faut retenir, une esquisse historique, une analyse sociologique des acteurs en situation d'interaction et une analyse proprement économique des différents segments de marché. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent le livre, que toute une partie du livre est ancrée dans une théorie économique de la concurrence imparfaite et une théorie de la concurrence monopolistique à la Joan Robinson, des auteurs extrêmement stimulants. Quant au livre qui clôt la période sur laquelle se fixe cette présentation, l'artiste, l'institution et le marché, il fait donc suite à une décennie de recherche au Centre de sociologie des arts. Et voilà la présentation qu'en donne Raymonde Moulin dans le même entretien. J'ai proposé une théorie sociologique et économique de la valeur. J'ai analysé le jeu complexe des interdépendances entre le champ artistique, l'État et le marché. Ça, c'est l'élément clé, c'est le rôle que joue l'État là-dedans et les structures publiques dans le processus d'homologation des œuvres d'art. J'ai commencé par distinguer le marché, espace économique où s'effectuent les transactions, et le champ artistique où s'opèrent les évaluations esthétiques et la reconnaissance sociale. Et c'est sur la base de cette distinction que j'ai reconstitué des relations d'interdépendance entre les différents segments du marché et les différents secteurs du champ. Cette conjugaison de plus en plus forte entre le champ et le marché, en particulier pour l'art contemporain, s'explique en partie par la multiplication des nouveaux acteurs, conservateurs, commissaires d'exposition, etc. Ça, c'est moi qui l'introduis, par leur polyvalence et par la versatilité des rôles. Voilà le très bref résumé de ce qui est contenu dans les deux livres clés. Et vous allez comprendre que le deuxième est le produit d'une intense activité dans le centre qu'elle a dirigé, ici à l'école. Et pour le faire, je retourne à quelques éléments d'archives de ce centre, des années 84 à 92. Qu'est-ce qu'il s'y est fait ? D'abord, l'étude du travail artistique avec toute une série d'enquêtes sur les professions. Les artistes plasticiens, je vais y revenir tout de suite, mais aussi les professions musicales, les professions de l'audiovisuel. C'est le travail qu'ont fait Sabine Chalvon, qui est ici à l'École des études, Dominique Passier, qui y a été longtemps, les paysagistes, c'est un travail de Françoise Dubost, les photographes, les graphistes publicitaires, les architectes. Raymonde Moulin avait elle-même produit un grand livre pionnier sur les architectes en 1973, l'équipe de production duquel était présente notamment Dominique Schnapper de l'École des études. Et des thèses seront faites plus tard sous sa direction dans les années 90 sur les architectes, notamment de Florent Champy. Il faut réserver une place tout à fait particulière à la très grande enquête statistique sur les artistes plasticiens qui a été réalisée au début des années 80 et qui est restée un modèle du genre au plan méthodologique et au plan de la robustesse des résultats. Le chantier a été conçu et dirigé par Raymonde Moulin et Jean-Claude Passeron. Et il y a eu des collaborateurs, évidemment, Dominique Pasquier, Fernando Porto-Vasquez, Pascaline Costa et Daniel Allais. Elle m'a demandé de les citer. Il faut créditer ceux qui travaillent. Donc, elle a raison, je le fais. Ce chantier a comporté des travaux absolument pionniers sur les méthodes et les sources de recensement des artistes. Ça, c'est un sujet en soi très intéressant. Comment on les identifie ? Comparaison France, USA, Pays-Bas notamment, une compilation quasi exhaustive de tous les fichiers disponibles sur les artistes et la construction d'échantillons stratifiés, notamment par degré de visibilité, sur la base desquelles ont été menées des enquêtes par entretien auprès de 600 plasticiens sur leur formation, leur carrière, leurs conditions d'exercice, leur position dans la profession. Ces fichiers, pour vous en donner une idée, je les ai vus physiquement dans les bureaux, ces fichiers exhaustifs, ils étaient le produit d'une exploration d'une extraordinaire multitude de sources qui correspondaient à une très grande variété de définitions de la professionnalité artistique. On pouvait recenser, par exemple, les galeries et les peintres qui y étaient, les expositions qui ont été produites. Ça, c'est des sources que les historiens connaissent bien. L'affiliation à la maison des artistes, les sources de sécurité sociale, les listes syndicales, les achats de l'État, le 1% artistique, les catalogues des ventes publiques, et j'en passe. Et en fonction de ces sources, évidemment, il ne s'agit pas de tout mettre à plat et d'additionner tout. Elle a créé, avec Jean-Claude Passeron, ça a été un coup de génie, une hiérarchie de la population en fonction de ce qu'ils ont appelé des indices de visibilité. Dans combien de sources apparaît chaque artiste ? Il fallait avoir ce moyen-là de décanter, en quelque sorte, et d'en faire une variable active à introduire dans le principe d'échantillonnage, puis dans l'analyse, évidemment, des résultats aux réponses aux questions qui avaient été posées. Donc, et c'est là qu'ont été construites une matrice d'enquête qui a été ensuite répétée par moi-même et par d'autres, moi sur les comédiens, Coulangeon sur les musiciens, Roaric et Ranou sur les danseurs, etc. Toujours le même principe, une base d'échantillonnage aussi exhaustive que possible. Ensuite, un échantillonnage techniquement propre, selon les bonnes méthodes. Il n'y a pas que l'INSEE qui sait faire ça, nous aussi. Notamment à travers des variables qui permettent de refléter la stratification endogène du milieu, puis les questionnaires, mais pas en ligne, en face à face, et l'exploitation. Ça, c'était un chantier absolument fondamental. Il y avait d'autres travaux qui ont concerné les politiques artistiques et culturelles. Il y avait une forte demande sur les différents terrains, arts plastiques, musique, architecture, de l'État qui construisait sa politique culturelle. Il voulait avoir des feedbacks. Et enfin, il y avait un chantier qui était très présent et sur lequel Raymond de Melun a beaucoup insisté tout le temps. C'était, et quel meilleur endroit pour le faire qu'ici même, c'était étudier la relation entre la sociologie et d'autres disciplines, et notamment l'économie. Elle a beaucoup insisté là-dessus. Sa thèse avait été pilotée en partie. Le jury comprenait Raymond Barre, par exemple, qui était aussi économiste, et Jean-Marcel Jeannet, qui était économiste. Elle en a gardé un vrai goût pour la variété des disciplines. Et elle m'a incité à créer un groupement de recherche au CNRS qui était attaché au centre d'ici, de l'école, qui s'appelait Analyse comparée de la valeur en économie et en sociologie, avec des collègues, notamment de l'école Passeron y était, au titre de la sociologie, également Emmanuel Pedler, mais pour l'économie, le regretté Louis-André Gervaret, qui était un économiste absolument merveilleux. De Marseille, et le jeune Marc Gurgan, qui a fait son chemin, qui est un grand spécialiste d'économie de l'éducation et de beaucoup d'autres choses, qui participe à JPAL et à PSE. Voilà. Et son idée, c'était, à travers ce genre de matrice pluridisciplinaire, de faire reconnaître la sociologie de l'art autrement que dans le sillage strict de la sociologie de la culture. C'était un peu comparable à ce que Howard Becker a fait lui-même dans les années 70. Il a écrit un article fameux qui s'appelle « Art as Collective Action » et en 74, qui a été la matrice de son livre « Art Worlds ». Et pour passer de l'article au livre, il y a quelqu'un qui a joué un rôle gigantesque de son propre aveu, c'est Raymond de Moulin, puisque Raymond de Moulin était celle qui a été la plus citée dans ce livre. Et Becker a dit lui-même qu'il avait appris le français en lisant Le marché de la peinture. Et il lui a rendu à maintes reprises hommage. J'ai des textes ici, mais je n'ai pas le temps de les lire. Et voilà, je n'ai plus que 5 minutes. Et en fait, Becker connectait... à travers Becker, il y avait une connexion qui s'est établie entre la sociologie française des arts et la sociologie américaine qui se constituait sous un label assez flou, mais c'est comme ça que ça a marché. Ce n'était pas une école, ça s'appelait Production of Culture. Et c'était Peterson qui dirigeait ça avec Paul DiMaggio. Enfin, ce sont des personnages qui ont fait des très belles carrières sur toutes sortes de sujets. Paul Hirsch, Charles Kadoshin, spécialiste des réseaux, Michael Yuzim, Warren Ackstrom, qui travaillait sur les sciences, Diana Crane, etc. Et Robert Faulkner, Marcia Bistrine, enfin, il y a beaucoup de noms, Vera Zolberg, Barbara Rosenblum, Priscilla Ferguson. Bon. Le lieu où ces choses-là se sont rencontrées, c'était un grand colloque qui a eu lieu à Marseille en 85, dans les locaux de la Vieille Charité, de l'École des hautes études. Donc, vous voyez, on est bien là, célébrer 40 ans et, de l'école. Et donc, il y a 30 ans, à la Vieille Charité, ce colloque international a joué un rôle considérable. Elle était à ce moment-là présidente de la Société française de sociologie, et c'est à l'initiative à la fois de l'École des hautes études et de la Société française de sociologie que ce colloque s'est tenu, et qu'il a servi à mettre en relation des personnages, dont tous ceux que je citais, plus d'autres, Anselm Strauss, bien connu dans la sociologie, etc. Ça a été un moment, comme on dit, de la discipline. En fait, ça me permet de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la discipline soit démarginalisée? Quand vous regardez les hiérarchies des objets, comme diraient les sociologues, les arts ne sont pas exactement au centre et au plus haut du tableau. Il y a plus haut que ça, le travail, l'éducation, l'immigration, etc. Et les arts, bon, est-ce que c'est... bon, c'était pas aussi haut que ça. La culture, on veut encore, mais les arts, etc. En fait, Raymond de Moulin a certainement joué un rôle clé pour agir dans le sens de cette légitimation de la sociologie de l'art. D'abord, c'est une des premières femmes à avoir fait carrière au très haut niveau en sociologie au CNRS. Elle fait partie de la première vague des sociologues femmes à avoir été aussi reconnue et consacrée. Probablement celle qui a été la plus reconnue et la plus consacrée dans sa génération. C'était aussi une personnalité qui avait la capacité de dialoguer avec des gens qui ne se parlaient jamais entre eux. Mandras, Crozier, Touraine peut-être se parlaient entre eux, mais avec Bourdieu, c'était plus difficile. Boudon, Passeron, Verret et d'autres. Enfin, on pourrait faire une carte des interactions, mais c'est plus compliqué. Et le livre d'hommage à Raymond de Moulin l'a prouvé. Et puis, il fallait créer des institutions. Et ces institutions, ou du moins y entrer, présider la Société française, jouer un rôle au CNRS, agir au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture a joué un rôle considérable pour financer des tas de travaux sur les arts, sur les professions. Augustin Girard a été une sorte de mécène de la recherche. Il a financé Bourdieu, il a financé énormément de gens. Avec beaucoup de subtilité. Et il fallait être dans les instances décisionnelles, par exemple le Conseil des achats des œuvres des musées de France, dans les instances internationales, etc. Donner un crédit scientifique à la discipline, c'est produire des revues, des numéros spéciaux de revues. Il y en a eu une ribambelle extraordinaire, Sociologie du travail en 83, auparavant Anthropologie de l'art dans l'ethnologie française. Le numéro de 86, dans lequel il y a ce grand article de Raymond de Moulin qui s'appelle « Le marché et le musée », que Jean-Claude Chambordon, qui a joué un grand rôle dans toute cette histoire, notre cher collègue de l'école, et mon cher ami de l'École normale supérieure. En 89, un dossier de l'année sociologique qui a été très important aussi, etc., etc., avec Jacques Revel, en 93, j'ai coordonné un numéro des annales. Et voilà, donc tout ça fait un ensemble qui peut-être vous explique la situation. Les objets, l'interdisciplinarité, les soutiens, la capacité à faire preuve statistique, à faire preuve scientifique au plus haut niveau et de manière incontestable, et... le dialogue avec l'histoire, avec le droit, avec l'économie. Voilà les ingrédients, en quelque sorte, de cette histoire de la sociologie sur les arts visuels. Alors, vous me direz, où sont passés les arts visuels? Eh bien, je n'ai pas le temps de le faire, mais il y a derrière tout ce que j'ai dit, et ça, je suis je ne peux pas remplacer Raymonde Moulin. Elle a une connaissance du détail des courants de l'art contemporain qui est sans équivalent. Et elle sait en capter à la fois les caractéristiques formelles, mais aussi les jeux d'acteurs derrière, parce que derrière une forme, dans les arts, il y a aussi un marché, et dans un marché, il y a des acteurs qui sont dans des relations d'interdépendance extraordinairement sophistiquées. Et voilà, comme elle m'a dit un jour, pour comprendre le problème, il y a deux choses. Plus l'eau est trouble, meilleure est la pêche, premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce que le prix d'une œuvre varie en fonction de la cylindrée de la voiture qui s'est garée devant la galerie? Voilà des questions intéressantes. Je vous remercie. Et maintenant, je dois enchaîner.
Je peux vous aider si vous voulez. Peut-être vous donner le titre de votre communication. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Michel Menka. Je pense qu'elle aurait. Ce qui est bien, c'est que l'entretien est enregistré. Donc, peut-être qu'elle aura l'occasion d'écouter ce retour sur cette carrière. Et donc, maintenant, vous allez nous parler d'un travail en cours, je crois.
Oui, oui. Hein? L'objet de ma communication, c'est d'analyser le travail à l'œuvre, pas la sociologie de l'œuvre, mais le travail à l'œuvre. Qu'est-ce que les sociologues ont à en dire? Le point clé pour moi, c'est d'étudier ce qu'est un processus de travail qui donne lieu à une œuvre, et notamment d'analyser les mécanismes de révision, de transformation, de bifurcation, et aussi en aval de ce moment-là, mais vous verrez que l'aval, il est dans la boucle aussi de la révision. Ceux qui s'en occupent, les éditeurs, les collaborateurs à la révision, etc. Le centre de l'affaire sera un cas que peut-être ceux qui sont les plus jeunes ou qui n'ont pas une culture musicale, de la musique savante, ne connaissent pas aussi bien que certains autres ici. C'est Anton Bruckner, qui est un grand symphoniste de la fin du 19e siècle, connu pour être un réviseur obsessionnel de ses œuvres. Donc c'est un bon cas d'analyse. Et pour le comprendre, il faut aussi prendre en compte ce que sont les opérations éditoriales, parce qu'elles prennent en compte aujourd'hui, plus qu'avant, la matière génétique des œuvres. Non plus simplement pour enquêter sur les motivations, les influences, sur l'intentionnalité, mais aussi pour examiner quelles décisions sont à prendre en fonction de l'histoire de l'œuvre et sa réalisation. Autrement dit, je vais insérer le collectif dans l'individuel à travers ces mécanismes. D'habitude, on sépare l'individuel et le collectif dans la musique en parlant des interprètes et qu'on oppose aux créateurs, du moins dans la musique savante. Le créateur est essentiellement solitaire, il y a peu de cas de création collective. Mais là, on entre, en fait, et à travers la séparation entre créateur et interprète, on a des matrices de professionnalisation divergentes. Vous voyez bien que la revendication d'autorité et de contrôle sur les actes respectifs de travail et sur les aires d'expertise a beaucoup changé à mesure que les interprètes sont devenus des co-créateurs. Regardez le mouvement de la musique baroque, c'est assez impressionnant. Donc, mon point, c'est, premièrement, quel est le problème? Deuxièmement, Bruckner. Troisièmement, des conclusions. Quel est le problème? Vous connaissez, je vous rappelle la définition que donne Starobinsky des trois gestes fondamentaux de la critique. Une opération de sélection, un nettoyage et une restauration critique des textes et l'exploration du cheminement créateur. Examinons ce deuxième moment du nettoyage. En fait, il y a beaucoup de décisions à prendre sur la valeur, la légitimité des interventions de multiples acteurs qui ont été impliqués dans la transformation d'un manuscrit et de ses éventuelles versions successives. Il y a même eu un courant célèbre de l'editing qui a dit, à propos de l'Ulysse de Joyce, s'il y a un mot qui change, c'est une version différente. Et bon, vous voyez où on peut en arriver. Les pratiques éditoriales ont changé à mesure qu'elles se sont intéressées à la complexité du dossier génétique des œuvres et notamment aux œuvres dont il existe de multiples versions. Il faut donc prélever dans cette documentation génétique pour établir le texte, décider quelle quantité d'informations on doit fournir au lecteur ou à l'auditeur sur les étapes de la genèse de l'œuvre. Et à travers ça, on réexamine la fameuse question de l'intention. Il y a un célèbre livre de Jerome McGann de 83 qui a commencé à explorer tout ça. Mais pour explorer, réexaminer la question de l'intention, il faut contextualiser le processus créateur pour récuser l'abstraction d'un travail en apesanteur qui serait seulement guidé par les fameuses intentions finales de l'auteur. Et donc, on passe d'une entreprise philologique, psychologique, à une entreprise historique. Quelle est la valeur des sources selon le contexte historique et social qu'on identifie ? Je vous rappelle que le travail artistique, il connaît au moins deux régimes temporels. Le premier, c'est la contingence et la variabilité du processus de création. Et le deuxième, c'est la durabilité de l'œuvre. L'œuvre d'art est un bien durable par excellence quand elle a franchi les épreuves sélectives et quand elle est continuellement remotivée par son inscription dans un patrimoine ou un répertoire. Et pour les œuvres dont le dossier génétique est substantiel, de multiples acteurs peuvent être... C'est déjà 5 minutes ? Ah non. peuvent être convoqués. D'accord. Ceux qui ont été en relation, donc les multiples acteurs sont ceux qui ont été en relation directe avec l'auteur, mais aussi ceux qui interviennent a posteriori. Alors, maintenant, le cas. Le cas Bruckner est tout à fait passionnant. Bruckner, 1824, 1896, 9 symphonies plus une qui s'appelle Die Nullte, c'est-à-dire la numéro 0. Donc, vous voyez déjà un problème. Des œuvres, par ailleurs, quelques œuvres chorales, religieuses, vocales, quelques œuvres d'orgue, de piano, un quintet à cordes, etc. Mais la production est entièrement dominée par le grand massif des symphonies. Quand vous connaissez l'histoire de la musique au XIXe siècle, vous savez que Beethoven a fixé le massif de la symphonie et que tout le monde a été tétanisé à l'idée d'écrire des symphonies ensuite parce que c'était un défi considérable. Comment faire mieux ou aller plus loin que Beethoven avant que Schoenberg dise « ben, changeons de langage ». 5 de ces 9 plus 1 symphonies ont connu plusieurs versions. 2 pour les symphonies 1, 2, 8. 3 versions pour la 3e et 3,5, c'est-à-dire avec un 4e final pour la 4e. Donc c'est une production restreinte, mais avec une très forte intensité de réélaboration de la moitié de sa production symphonique. Alors, je simplifie le dossier éditorial qui est très compliqué. Un grand musicologue anglais a dit un jour, dans la fin des années 60, « Il y a un terrible problème Bruckner ». Bon, je ne vais pas vous détailler le terrible problème Bruckner de ses éditions, mais ce qui est intéressant, c'est que Bruckner a donc révisé beaucoup avant de publier. Il a révisé, avant de publier, ses symphonies 1, 2, 3, 4 et 8. Et pour préparer ses manuscrits pour la publication... On a énormément de situations qui peuvent être très variables et de différences qui sont parfois très profondes entre les éditions publiées et les manuscrits des œuvres, qu'elles étaient révisées ou non. Donc, question, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Et en outre, beaucoup d'éditions ont circulé de son temps et continuent de circuler aujourd'hui. Il y a les publications qui ont été endossées par le compositeur, sans qu'il les ait d'ailleurs toujours lui-même entièrement supervisées. Il y a des révisions réalisées par des chefs pour leur propre usage. Mahler a révisé la 4e, il réorchestrait volontiers parce que ça ne lui convenait pas, et il a fait des coupures, etc. Donc il y a plusieurs niveaux d'instabilité des textes. L'instabilité auctoriale, qui est due à la pratique intense de révision par le compositeur lui-même, les interventions réalisées par des chefs pour ajuster les œuvres à leur usage personnel, et le travail des collaborateurs de Bruckner qui étaient impliqués dans l'édition des œuvres. Alors, dans tout ça, il y a une symphonie qui est absolument remarquable, c'est la 8e, qui est d'ailleurs considérée comme l'œuvre majeure de Bruckner, composée entre 84 et 87. Il se trouve que Bruckner, qui avait connu des tas d'échecs, mais commençait à voir le ciel s'éclaircir avec sa 7e symphonie qui avait connu un succès, s'est dit « je suis sur la bonne lancée, ça y est, la 8e, ça va marcher ». Et puis patatras, le grand chef Hermann Lévy lui dit « ça marche pas, cette symphonie n'est pas possible, elle n'est pas bonne, il faut la reprendre ». Et pourtant, Hermann Lévy était un très grand soutien de Bruckner. Donc Bruckner a révisé lui-même l'œuvre avant qu'elle ait connu une première exécution. Vous savez que d'habitude, une révision d'une œuvre, elle est liée à sa socialisation par les premières exécutions, les premiers concerts, etc. Et il a fait cette révision avec l'aide de certains de ses élèves, et notamment les frères Schalk, dont l'un est devenu un chef fameux. Or, le processus de cette révision est extraordinairement tortueux. Il y a 10 000 folios de partitions autographes, de copies, de fragments, de partitions, d'esquisses et de parties préparées pour l'exécution. Je ne les ai pas regardés, mais un musicologue avec qui j'ai des échanges a fait l'édition de cette symphonie, Paul Hawkshaw, et il s'est tapé le boulot. Il y a deux intrigues dans cette affaire. Pourquoi Bruckner a révisé une œuvre qui n'avait jamais été jouée ? Est-ce que c'est le symptôme d'un créateur qui est en proie au doute perpétuel, ou est-ce qu'il accepte très pragmatiquement le jugement et les objections d'un chef très expérimenté ? Ou bien est-ce que c'est la volonté propre du compositeur de rechercher le succès le plus large possible auprès du public viennois, qui était très conservateur et subjugué par l'esthétique Brahms-Hanslick, et donc il voulait consolider le succès de sa septième, et donc la huitième devenait un enjeu majeur à ses yeux. Quand on autant de questions, autant de réponses qui peuvent être pondérées différemment et qui suscitent des décisions variables, et la bataille fait rage entre les musicologues. Alors, il y a deux intrigues possibles. La controverse entre les musicologues sur la réponse à donner aux questions que j'ai formulées. Par exemple, un musicologue qui s'appelle Gilliam s'oppose à un autre qui s'appelle Korstvedt. Et la question est-ce que Bruckner, il y a un constat de dégradation de la puissance de la version initiale ? La fameuse énergie de l'impulsion initiale qui est dégradée parce qu'il y a un souci néfaste du compromis avec le goût environnant, ou alors est-ce que l'œuvre a été réellement améliorée par consolidation de sa structure, clarification de ses matériaux, etc. etc. Je passe à la deuxième intrigue, la publication de la version révisée. Est-ce qu'il s'agit d'un travail éditorial légitime ou illégitime ? Les deux éditeurs de la version révisée, Josef Schalk, assisté de Max von Oberleitner, ont procédé à des centaines de modifications sur le manuscrit pour établir la copie gravée. Modifications de dynamique, d'orchestration, coupures, ajout d'indications de tempo, de dynamique, nouveaux équilibres instrumentaux. Et tout le processus est largement traçable grâce à la correspondance entre Schalk et Oberleitner. Et donc, le problème vient, qu'est-ce qui a été au juste discuté de tout ça avec Bruckner et approuvé par lui, et qu'est-ce qui ne l'a pas été ? On sait qu'un certain nombre de modifications se sont décidées à l'insu de Bruckner. Je cite une lettre de Schalk à Oberleitner de 91. « Si Bruckner venait à consulter la partition manuscrite à la répétition, tout notre précieux travail n'aurait servi à rien, et au lieu de remerciements, nous serions exposés à sa malédiction. » Bruckner lui-même, une fois que l'œuvre fut éditée, ne protesta pas, du moins pas publiquement, mais l'année suivante, il confia la totalité de ses manuscrits à la Bibliothèque impériale de Vienne en recommandant de baser les éditions de ses œuvres sur ses manuscrits. Et donc, vous voyez quelque chose comme une intrigue dont les nœuds se resserrent. Comment s'assurer du degré d'information de Bruckner sur le cours des choses et que sait-on de ses réactions ? Quelle a été la trajectoire de collaboration entre Bruckner et ses élèves et collaborateurs ? Et ici, on a deux possibilités. Une trajectoire linéaire avec sa version négative. C'était l'idée de Robert Haas, le premier éditeur de l'édition complète de Bruckner. Bruckner, dit Haas, a été sous l'emprise des frères Schalk. C'est un génie fragile et influençable. Et d'ailleurs, Haas lui-même avait par ailleurs un autre agenda qui était fortement antisémite, puisque les frères Schalk étaient juifs et que donc il s'agissait de dire Bruckner était sous l'influence des juifs. Haas, c'est 30-40. Il n'a pas tout à fait fini l'édition complète de Bruckner dans les années 40, début des années 40, avant l'effondrement du régime nazi. L'autre interprétation linéaire, c'est dire positivement Bruckner... Il est formé à l'orgue, ne connaissait pas n'avait pas une science orchestrale absolue, et donc il a bénéficié du savoir de ses collaborateurs qui lui ont donné les bons outils et qui ont pris les bonnes décisions pour favoriser à la fois la publication et la réception de l'œuvre. Et donc, même si tout n'a pas été contrôlé par Bruckner, ses collaborateurs ont facilité la socialisation de l'œuvre. La version inverse est notamment défendue par Hawkshaw, le responsable de l'édition, la grande édition la plus récente. La collaboration est une dégradation, mais par perte de contrôle. Et là, les arguments se succèdent. Premièrement, la genèse de la symphonie constitue un microcosme de l'histoire des relations entre Bruckner et ses élèves, qui furent aussi ses éditeurs et ses conseillers. Deuxièmement, Bruckner n'a pas révisé l'œuvre sous le coup d'une panique dépressive irréversible, l'exposant à toutes les influences, il y a des preuves. Troisièmement, Bruckner a intensément collaboré avec les frères Schalk et avec Oberleitner et Loewe pour la révision de la symphonie, mais au fil de multiples séquences d'interactions, de discussions et de délibérations, et il a décidé, quand il était informé, souverainement de ce qu'il voulait conserver. Ensuite, Bruckner a pleinement endossé toutes les modifications contenues dans la deuxième version. Puis, il ne fait pas de doute non plus que ses élèves, Schalk et Oberleitner, se sont entendus par collusion et dans son dos pour tenir secrète toute une partie des décisions qu'ils ont prises et pour empêcher quantité de modifications. Bruckner ne protesta pas, du moins pas publiquement. Conclusion, premièrement, une incertitude épistémique. On ne sait pas exactement quel était le degré d'information de Bruckner. On ne le saura probablement jamais. Et deuxièmement, il faut inverser la charge de la preuve. Korstvedt dit « les preuves de non-information de Bruckner par ses éditeurs n'existent pas ». Hawkshaw dit « il n'y a pas de preuve que Bruckner ait connu les interventions de ses éditeurs, mais il existe des preuves des manœuvres stratégiques de ceux-ci Conclusion, il faut repousser et laisser sur les rangées des bibliothèques l'édition révisée et l'édition de l'œuvre par Schalk et Oberleitner. Conclusion générale, et j'en finis, l'analyse des processus de travail, notamment via les dossiers génétiques des œuvres, permet dans des cas bien documentés de révéler les contributions, collaborations, interventions d'une grande variété d'acteurs. Le registre d'analyse efficace, ce n'est pas simplement la chaîne de coopération dont parlerait Becker, mais l'organisation des relations et des processus de production. Vous pouvez très bien situer tout ça dans une matrice de théorie des jeux à information incomplète, répétée. Les cas problématiques ont un pouvoir extraordinairement révélateur. Il y a des cas, des analyses classiques, convention, rupture de convention, hystérésis, des ajustements, des couplages, dispositions, positions, etc. Il y a des gains et des bénéfices et des défis de l'analyse organisationnelle que j'ai voulu esquisser, l'allocation des responsabilités, les structures d'information dans le jeu stratégique, la modélisation du jeu des acteurs, les mécanismes de représailles. Et donc, on en arrive donc de l'authorship à la question du contrôle sur l'organisation du travail. Évidemment, il y a des conséquences sur l'identité des œuvres. Est-ce que c'est un texte ou une enveloppe de possibilités? Mais il est possible d'incorporer les pratiques interprétatives dans le dossier génétique de l'œuvre pour faire place aux interventions sur l'œuvre et aussi pour hiérarchiser nettement les responsabilités. Et enfin, la durabilité de l'œuvre repose donc aussi sur l'exploitation renouvelée et parfois sans cesse renouvelée de son dossier génétique. Je vous remercie.
Merci beaucoup Pierre-Michel pour cet exemple absolument stupéfiant, merveilleux, qui va au-delà de tout ce qu'on peut exploiter. Maintenant, j'ai quand même une question précise. Au fond, tu as récusé un modèle philologique dépassé, sans doute parce que le modèle philologique traditionnel débouche sur une œuvre incontestable et que, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment possible. Mais quand je regarde les méthodes d'analyse auxquelles l'éditeur est confronté, est-ce qu'on ne revient pas finalement quand même à tout l'éventail, en quelque sorte, de l'investigation de documents historiques, manuscrits, etc., qui sont du ressort disons, de la démarche philologique? Tu as donné un petit peu de réponse tout à l'heure, tout à la fin, mais malgré tout, je maintiens la question.
Alors, oui, toi qui es un expert en matière d'études génétiques, tu sais bien de quoi je parle. Évidemment, il y a un coût théorique pour dire la vraie philologie, c'est la génétique des textes. Mais Hawkshaw, à un moment donné, doit décider ce qu'il doit publier. Et donc, qu'est-ce qu'il pense qu'il doit faire autorité comme... Et c'est là que s'introduit une controverse. puisque j'ai des relations d'échange avec les deux personnages qui sont au centre de mon affaire. Korstvedt Lee dit, en gros, il n'y a pas de raison de récuser une édition fautive de la fin du XIXe siècle, puisqu'elle était en circulation, puisqu'elle reflétait des décisions qui étaient prises à l'époque sur l'interprétation de l'œuvre, sur les choix possibles à faire sur l'œuvre, etc. Donc elle incorpore toutes sortes de décisions qui font partie de son contexte. Et Hawkshaw, lui, récuse et d'une certaine manière reprend une posture plus classique d'éditeur philologue pour dire « j'ai étudié complètement le dossier, mais entre-temps, il a accepté de prendre en compte la totalité du dossier et d'essayer de se faire une religion sur le jeu des acteurs », ce qui est très important parce qu'il faut aller creuser cette matière. Et c'est là que l'enquête philologique se déplace de l'œuvre elle-même à l'environnement pour calibrer, pondérer les choix, les probabilités, etc., et fonder peut-être en raison ce qui est ultimement une décision, je suis bien d'accord avec toi, mais qui est passée par un circuit plus long. Donc, c'est mèche longue, comme dirait le personnage dans « Il était une fois la Révolution ».
Juste toujours pour rebondir sur la philologie, donc, quand même la philologie, quand elle est devenue à partir du 19e, son but c'était de détruire les textes, c'était pas de constituer le bon texte. Ça c'est quand même une illusion qu'on a, c'est avec Homère, on a commencé à défaire Homère, à le déconstruire si on veut. Et donc peut-être que là, donc on aligne les variantes, etc., etc. Alors après, il peut y avoir des choix. Bon, mais d'abord, on ouvre les possibilités. Alors justement, c'est un problème quand même de destinataire, c'est un problème social. C'est-à-dire que là, bon, pour Homère, maintenant, où il y a beaucoup moins de variantes en fait que chez Bruckner, une édition rationnelle maintenant est une édition donc informatisée où on peut afficher les états du texte, etc., les scolies, et on clique pour savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme état, tout ça. Donc on a un texte multiple. Bon, ça c'est ce que fait Gregory Nagy à Washington. Mais effectivement, s'il s'agit de faire un concert, on ne va pas jouer un appareil critique. Donc,
voilà, c'est tout le problème.
Alors c'est ça le problème. Donc c'est lié à un usage. Et en fait, on peut imaginer qu'on a plusieurs symphonies.
Oui, oui.
Après, on laisse l'interprète décider de l'intention, de l'histoire, voilà. Voilà. Mais la philologie au départ, non, elle est déconstructive. C'est ça que parfois on oublie. C'est contre la Vulgate, justement. On ouvre. Et ensuite, alors après, il y a des procédures de décision qu'on peut critiquer avec des critères, etc. etc. Mais le premier geste de Friedrich August Wolff, c'est de dire « j'ouvre ».
Oui, bien sûr. Non, merci. C'est un commentaire plus qu'une question, mais ça permet quand même de souligner que les médiums ne sont pas les mêmes, puisque effectivement, un concert, il faut produire quelque chose. Et on ne peut pas faire de l'hypertexte en concert. C'est très difficile. On fait de l'hypertexte pour Musil, pour des tas de choses, et vous cherchez là-dedans. Il y a eu quand même une édition critique, par exemple, d'un certain nombre d'œuvres de Verdi, où il y a 8 variantes possibles dans l'édition Ricordi, et donc le chef peut choisir ce qu'il veut et fabriquer sa sauce à lui. Et parfois même, c'est publicisé. Un des grands spécialistes de cette littérature, Philippe Gossett, a lui-même, un musicologue qui est responsable de l'édition scientifique de Verdi à Chicago, a fabriqué la première édition, l'édition de Saint-Pétersbourg, de La Force du Destin. Donc c'est l'œuvre Verdi-Gossett. Donc c'est quand même toujours un peu sur les épaules des géants. Il y a maintenant aussi une équipe comme ça de musicologues, plus des dramaturges, plus toutes sortes de choses. Donc c'est une action collective. Mais à un moment ou à un autre, il faut choisir ce qu'on prend comme texte. Ce qui est important, c'est de voir un peu qui s'est infiltré dans le jeu. Dans la musique baroque, c'est pareil. Il y a, au lieu d'un compositeur et d'un interprète, il y a une armée de gens, le facteur d'instrument, etc., etc., celui qui a établi le texte, celui qui a fait la scénographie. Il y a même aujourd'hui des tentatives de reconstitution de la gestique du 19e ou du 18e siècle ou du 17e. Enfin bon, c'était fait pour la danse, etc. Et avec les instructions des compositeurs. Donc on peut aller très loin dans le jeu de l'authenticité, etc., toujours à la recherche des empilements historiques de faits sur les œuvres, et les œuvres ne supportant ça que parce qu'elles sont durables. Une œuvre qui n'est pas durable, qui sort du répertoire, elle n'existe plus. Donc c'est une manière de remotiver l'œuvre que de dire « Ah mais non, je prends l'édition Novak et pas l'édition Haas de la symphonie, etc. » Pierre Boulez, qui a dirigé la 8e symphonie, je regrette et je rends un hommage très amical et chaleureux à Pierre Boulez. J'aurais beaucoup aimé l'interroger sur cette question. Moi, qui l'ai interviewé longuement sur des questions de travail du créateur, voilà. Mais si j'ai l'occasion, et si du moins il peut nous répondre encore, je ne sais pas. J'aimerais lui adresser cette question sur la huitième. Merci.
Merci beaucoup. Musicologue, peut-être que tu pourras réagir toi aussi à ce que peut avoir comme effet l'empilement des faits historiques, comme vous dites, sur les œuvres, qui est un sujet très intéressant. Là, ça veut plutôt ton propre empilement des faits historiques sur ton propre parcours. C'est pas si simple. On a demandé à Esteban il a proposé de faire retour sur son propre parcours d'étudiant à l'école. André Guintert, ce matin, évoquait d'ailleurs, il a esquissé ce pas, cette direction, et il n'est pas allé jusqu'au bout. Toi, Esteban, tu vas te livrer à cet exercice, mais qui nous permet évidemment d'ouvrir sur toute la question de la recherche sur la musique à l'école.
En effet, merci Karine. J'ai commis l'imprudence de me livrer devant vous à une sorte d'exercice qui est en partie un moment d'ego histoire, je m'en excuse, mais je suis un pur produit, chimiquement pur, de ce qu'on appelle parfois l'endogamie de cette institution, et c'est en général pour le regretter. Moi, je dois dire que je dois tout à cette institution et qu'il m'a semblé que le 40e anniversaire en était, c'était un bon moment pour au moins en témoigner. En fait, je vais commencer par une citation, mais je vous rassure tout de suite, elle n'est pas de moi. Elle est de Françoise Escal, qui a été directrice d'études ici à l'EHESS, donc entre 1990 et 2001, et qui déjà en 1979, je crois qu'elle était à l'époque maîtresse de conférence à Nanterre, écrivait ceci, je cite donc, « La musique, en effet, est depuis quelques années l'objet d'un certain renouvellement de la réflexion critique ou théorique. » À côté de la musicologie traditionnelle, qui reste essentiellement philologique et historique, s'est développé ce qu'à défaut d'une meilleure dénomination, on pourrait appeler une nouvelle musicologie qui prend acte des acquis ou des méthodes des sciences de l'homme. Fin de citation. Donc, je répète, c'est en 1979. Donc, voici en mon nom propre. Donc, j'ai connu le HESS en 1991 en m'inscrivant comme étudiant pour préparer un diplôme de l'école sous la direction de Jacques Lénart. Et j'y ai poursuivi mes études sous la direction de François Escal jusqu'à soutenir ma thèse en 1997. J'y suis revenu 2 ans plus tard comme maître de conférence et j'y suis toujours au CRAL, ce centre fondé en 1983 par Tsvetan Todorov, Gérard Genette, Raymond Belour, Christian Metz, Louis Marin et quelques autres chercheurs identifiés, même si c'est un raccourci avec le structuralisme et un certain héritage de Roland Barthes. Si je suis venu à l'EHESS, c'est surtout parce qu'en Argentine, dans les années précédentes, j'avais suivi une première formation non universitaire, au demeurant avec un sémiologue, Oscar Steinberg. Celui-ci était membre d'un groupe réuni autour d'Eliseo Verón, un élève de Lévi-Strauss et de Barthes, qui aura fait l'essentiel de sa carrière en France. C'est Oscar qui m'a fait lire les structuralistes, y compris les textes pas nombreux du reste qui portaient sur la musique, comme l'ouverture de Le Cru et Le Cuit de Lévi-Strauss, où celui-ci distribuait les compositeurs aux musiciens du mythe, du code et du message, ou l'article fameux « Le grain de la voix » où Barthes disait que le grain, je cite, « c'est le corps dans la voix qui chante ». Fin de citation. Cependant, à cette époque, je travaillais comme critique musicale et j'étais également l'élève du compositeur Francisco Kröpfel en Argentine, qui enseignait une technique d'analyse musicale dérivée de l'œuvre d'Arnold Schoenberg et de la Gestalt-théorie. Même si j'étais en même temps féru d'Adorno, ma manière de comprendre la musique était donc au départ extérieure aux sciences humaines et sociales et ancrée dans une pratique savante développée à l'intérieur du milieu musical. La lecture des structuralistes m'a conduit tout naturellement vers la sémiologie musicale et d'autres apports faits dans leur sillage à la compréhension du fait musical. Le premier de ces apports, qui eut une influence certaine sur la discipline musicologique à l'échelle internationale, et là encore, est la technique d'analyse musicale dite paradigmatique, développée sur les traces de l'ethnomusicologue Gilbert Rouget, par Nicolas Rouet et Jean-Jacques Nattier, et par la suite appliquée à d'autres musiques, par exemple à la musique pop, par Philippe Tagg. Une deuxième ligne dans cet héritage musicologique du structuralisme fut le rôle de la sémantique structurale de Greimas aux origines de la narratologie musicale, moyennant l'application du fameux carré sémiotique à l'analyse d'œuvres instrumentales dès les années 1980 par le finlandais Eero Tarasti et peu après en France par Martha Grabosch. Ce à quoi viendra s'ajouter, en résonance avec la théorie de l'argumentation développée par Oswald Ducrot à l'EHESS, et littéralement dans cette même salle, la théorie musicologique des topoi, ces lieux communs pictorialistes fréquents dans la musique classique. La troisième ligne est celle que j'ai découverte en arrivant à l'école et que j'associe surtout au concept de paratexte forgé par Gérard Genette. Je revois Françoise Escal en 1991 écrivant au tableau le titre « Seuil », ce livre de Genette paru au Seuil justement en 1987, où il est question non seulement de paratexte mais aussi de péritexte, épitexte et autres prétextes visant à mettre en lumière et par là même en question les frontières du texte. Partant, la division du travail est encore pratiquée aujourd'hui, malgré ses faiblesses, entre approche externaliste et approche internaliste des œuvres, qu'elles soient d'ailleurs musicales, littéraires ou autres. Avec ténacité, Françoise avait entrepris de répertorier les dispositifs qui, dans la musique, autour de la musique, à partir de la musique, adossent les sons à des contenus verbaux et surtout établissent des régimes d'intelligibilité qui sont au cœur de l'expérience d'écoute ainsi que de ses commentaires. Dès 1992, elle qualifiait cette démarche, j'ai vérifié dans les annuaires de l'école, d'approche pragmatique de la musique. C'est un fait qu'un peu d'inconscience de ma part et sans doute autant de bienveillance de la sienne qu'en préparant mon DEA sur la suite lyrique d'Almenberg, j'ai étendu cette idée du paratexte au-delà de l'instance éditoriale ou poétique que le terme désignait en propre, vers l'ensemble des discours verbaux sur une œuvre musicale, y compris la critique musicale. Car de fait, dans la socialisation d'une œuvre, il me semble qu'une fois acté l'assassinat de l'auteur par le même Barthes, il n'y a pas de véritable coupure épistémique entre ce qu'un créateur en dit et ce qu'en disent les critiques, ne serait-ce que parce que ces derniers puissent volontiers dans les discours du premier, ne serait-ce que pour les contredire. Je n'élabore pas cette question, car pour cette communication, j'ai choisi de laisser de côté la production des œuvres, qu'il s'agisse de la sociologie du travail créateur, développée par Pierre-Michel Menger, ou de l'histoire génétique, qui d'ailleurs, comme on vient de le voir à l'instant, se croise et se mêle inextricablement. Ce qui m'emporte de souligner, c'est qu'au seuil de la musique, on est encore ou déjà dans la musique, et en même temps, on a déjà commencé à la quitter, pour aller vers quelque chose qui n'est pas le social, puisque le social ne saurait être l'autre de l'art ni s'y opposer, mais vers d'autres séries d'objets sémiotiques qui sont autant d'affordances par où l'expérience de la musique participe de l'expérience humaine en général. Tout cela met au centre de l'attention, non pas l'analyse des structures formelles, mais disons pour résumer, la question de la signification, même si je ne veux pas du tout opposer structure et signification, on peut y revenir. Pendant ce temps, je n'avais à vrai dire qu'une idée assez sommaire de ce qu'était la musicologie traditionnelle vis-à-vis de laquelle ce qui se faisait à l'école et dans quelques autres endroits représentait une alternative grâce à l'apport des sciences de l'homme, comme disait François Escal dans le passage cité, en pensant sans doute à la sémiologie. Ce qui revenait d'ailleurs à situer la musicologie à l'extérieur des sciences de l'homme. J'ai parfois l'impression que cette fameuse musicologie traditionnelle est surtout un épouvantail qui ne prend sens que vis-à-vis de la soi-disant nouvelle musicologie ou de la new musicology qui en même temps s'épanouissait aux États-Unis grâce à la French Theory. Mais il semble bien qu'en France, la musicologie universitaire de l'époque se caractérisait par son autonomie, et je n'ose pas dire son autisme, au sens où même les musicologues les plus érudits ne jugeaient pas vraiment utile, sauf exception, de citer des non-musicologues, y compris là où il était question, par exemple, d'histoire sociale de la musique. En France comme aux États-Unis, les musicologues restaient en général attachés à des modèles organicistes de l'analyse musicale et en général s'intéressaient assez peu à la question de la signification, surtout lorsqu'elle avait trait au genre, au social, au politique. Pour ma part, comme étudiant à l'EHESS, de l'intertextualité entendue au sens large, je suis allé vers l'herméneutique, en commençant bien sûr par l'esthétique de la réception de Jauss, dont la réception en France battait alors son plein. Le séminaire de Jacques Lénard, disciple de Lucien Goldman, m'avait également préparé à mieux comprendre ce qui, dans la signification, m'intéressait plus que tout, à savoir le politique. De fait, j'étais allé le voir avec un projet sur l'hymne national argentin. Et c'est également au séminaire de Jacques que j'ai découvert les débats en sociologie des arts et de la culture, dont notre école était et reste l'un des foyers, comme le rappelle la présence ici de Pierre-Michel Menger, de Jean-Louis Fabiani, d'Emmanuel Pedler, Nathalie Hennig, Gisèle Sapiro et d'autres. Une année durant, Jacques aura décortiqué ligne à ligne, sous nos yeux et avec nous, les règles de l'art de Pierre Bourdieu, paru en 1993. En général, il n'était pas d'accord, pour autant que je m'en souvienne, mais cet exercice de démontage critique m'a beaucoup appris, autant que les cours de Bourdieu lui-même. Car il est évident qu'aucune recherche sur la signification des œuvres d'art qui s'intéresse au genre réel, et pas seulement à auditor in fabula, ne peut se passer d'une réflexion sociologique sur les publics. quitte à déplaire parfois, car le paradoxe du musicien de Menger, je me permets de le rappeler, a été en 1983 un sacré pavé dans la mare de la musique contemporaine, en même temps qu'un modèle pour beaucoup de chercheurs, dont d'ailleurs certains de mes étudiants aujourd'hui. Et c'est par la sociologie de la culture, à partir de la distinction, qu'auront été remises en cause les hiérarchies culturelles qui, même pour le sens commun savant, et y compris d'ailleurs pour celui de Bourdieu, faisaient de la musique classique la musique par excellence, la grande musique, comme disaient encore les premières enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, comme le rappelait il n'y a pas longtemps Olivier Donat lui-même. Puisque je me suis lancé dans ce qui est partiellement un exercice d'égo-histoire, je ne puis passer sous silence l'importance qu'a eu dans mon parcours d'étudiant à l'EHESS le séminaire de Pierre Nora sur les lieux de mémoire, alors que je préparais ma thèse sur la 9e de Beethoven, ni l'attention fascinée avec laquelle nous écoutions dans ce même amphi Jacques Derrida parler de Shoah de Claude Lanzmann et déconstruire, le terme est obligé, les figures du témoin et du témoignage. Ni ce que m'ont appris d'autres chercheurs réputés qui ne s'occupaient pas de musique, je pense par exemple à Yversan ou à Louis Marin, mais dont il m'est arrivé de pousser la porte du séminaire grâce à cette liberté de circulation qui est l'une des choses merveilleuses de cette école. Si ce n'est que cette liberté avait un prix, car je me suis retrouvé plus ou moins livré à moi-même dans le vaste champ des sciences sociales, sans savoir si ce que je faisais s'appelait de la musicologie, fût-elle nouvelle, de l'histoire, que de fait je pratiquais sans être pour autant reconnu ni même me penser comme un historien, des sciences du langage, qui est le terme généreux mais anachronique qui figure sur mon diplôme de doctorat, ou rien du tout qui puisse mériter le label d'une discipline, sans parler d'une qualification par le CNU. Et à vrai dire, sur ce plan, je ne suis pas beaucoup plus avancé aujourd'hui, même si, bien sûr, je n'ai plus d'inquiétude pour mon avenir professionnel, grâce à l'EHESS qui, en 1999, a fait de moi un fonctionnaire de l'État français, juste à la veille d'être invité par la préfecture à retourner dans mon pays d'origine. En 2001, suite à une suggestion de Françoise Escal au moment de son départ à la retraite, nous avons créé, avec Laure Schnapper et Michael Werner, qui venaient eux-mêmes d'horizons très différents, Michael nous en parlera peut-être demain, nous avons créé donc ensemble un DEA, une formation doctorale musique, devenue par la suite la spécialité musique du master de l'EHESS. Cela a permis de fédérer des démarches diverses à l'intérieur et à l'extérieur de notre école. C'est la culture de l'interdisciplinarité propre à l'EHESS qui a fait que ce master soit aujourd'hui l'un des rares endroits, c'est une collègue étrangère qui voyage beaucoup qui me le disait il y a quelques jours, où les étudiants peuvent mener des recherches sur des objets aussi variés que, mettons, Bach, Stromae, la musique électro, l'évaluation de la musique contemporaine, le rap lors des printemps arabes ou la patrimonialisation du tango, et j'en passe. Autrement dit, naviguer entre la musicologie, l'ethnomusicologie, la sociologie et l'histoire de la musique sans trop s'arrêter aux frontières et sonder leur articulation avec les sciences en général sans trop se soucier non plus des grands partages entre histoire, sociologie et anthropologie. C'est que le parcours de la musique vers l'écoute que j'ai mis en titre de cette communication, de la musique vers l'écoute et retour, donc cet intérêt convergent sur l'écoute, s'est inscrit dans un intérêt plus large pour les phénomènes de perception et de réception qui fait que ces dernières années, l'écoute, entendue comme je le fais ici devant vous dans un sens très large, est devenue un thème récurrent à l'échelle internationale. Le livre « Écoute, une histoire de nos oreilles » de Peter Zendi, paru en 2001, peut servir de repère, en tout cas pour la France, mais au-delà de l'intérêt personnel de son auteur pour Derrida et pour Jean-Luc Nancy, qui l'a préfacé, c'est là une démarche collective qui s'est nourrie de sources aussi diverses que l'esthétique de la réception, dont Karl Dahlhaus a montré la fertilité pour l'histoire de la musique, Temps et récits de Paul Ricoeur, la sociologie pragmatiste qu'à propos des amateurs de musique aura développé Antoine Aignan dès les années 90, et où pour ma part j'irai puiser plus tard, surtout grâce à Luc Boltanski et Laurent Thévenot, l'histoire sociale des techniques qui permit à Sophie Maisonneuve de décrypter les nouvelles sociabilités créées dans son cas par la dissémination des gramophones et qui aujourd'hui pousse des chercheurs comme Georgina Born ou plus près de nous Philippe Le Goern à scruter les conséquences vertigineuses de la révolution numérique. L'intérêt pour les lieux de musique, exploré par l'équipe réunie par Michael Werner, la combinaison de l'écologie de la perception de Gibson avec l'art comme expérience de Dewey, qui a donné par exemple l'écologie sociale de l'oreille, proposée par Olivier Rouef et Anthony Péqueux dans un livre paru en 2009 aux éditions de l'EHESS, lequel s'ouvre sur un texte de Denis Laborde, ou encore la réflexion sur l'expérience esthétique de Jean-Marie Schaeffer, Depuis le retour à Kant des années 1990, en compagnie de Genette et de quelques autres, qui par la suite s'est fait tourner vers la psychologie cognitive avec une opiniâtreté lentement contagieuse. Je parle pour moi, qui me retrouve maintenant à explorer des textes de psychologie expérimentale sur la musique et les émotions, pour nourrir une recherche qui pourtant se voudrait de part en part historienne, c'est-à-dire qui tient qu'il n'est de signification de la musique qu'en situation, lors d'écoute et d'interprétation que des personnes réelles font dans des contextes précis. C'est une liste bien éclectique à laquelle j'aimerais pourtant ajouter encore la psychanalyse, laquelle est en soi, depuis Freud, une théorie et une pratique de l'écoute, flottante en l'occurrence, ce qui n'est pas pratiqué que par les psys, loin de là. Je voudrais me focaliser maintenant sur le dernier terme de mon titre, donc de la musique à l'écoute et retour, cette question du retour à la musique. Mais à vrai dire, je ne sais s'il s'agit d'un retour ou d'un aller, ni même si la notion d'un voyage entre les deux termes est une bonne métaphore. Et d'ailleurs, pour des personnes comme François-Bernard Mache, qui est ici présent et que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure, la question peut tout simplement paraître absurde. Mais en tout cas, je suis bien conscient qu'il y a beaucoup d'objets de recherche où on peut parler de la musique et ne pas s'intéresser aux œuvres, et qu'en plus, il y a beaucoup de contextes musicaux où la notion même d'œuvre est tout simplement non pertinente. Quoi qu'il en soit, je constate que nous avons développé un savoir-faire collectif considérable dans la description des pratiques musicales, de la musique en train de se faire, des mondes de l'art, des patrimoines musicaux, des institutions musicales, des rôles sociaux et politiques, mémoriels ou utopiques par exemple, des objets sonores, etc. Et je dis bien « objet sonore » en reprenant le terme de Pierre Schaeffer tout en le détournant, car c'est encore l'écoute qui, je crois, a permis de commencer à intégrer la musique dans le champ plus vaste de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie historique du son, ce qu'on appelle aujourd'hui les « sound studies », même si je ne me retrouve pas forcément dans ce terme. C'est ce que nous avons tenté, par exemple, lors d'une récente exposition à l'Historial de Péronne, qui a réuni des musicologues avec des spécialistes de la Grande Guerre, tels que Stéphane Audouin-Rousseau ou Annette Becker, pour travailler à la fois sur les chansons de poilus et sur les pathologies de l'oreille produites chez ces mêmes poilus par la mitraille et les obus. Bref, toutes ces manières diverses et complémentaires de saisir les sons en tant qu'ils sont écoutés, interprétés, échangés, commercialisés, racontés, voire non écoutés, comme par exemple dans les études sur la surdité ou sur le silence, tout cela a profondément modifié, je crois, notre conception de la musique. Maintenant, la question se pose de savoir si les études musicales ainsi ancrées dans les sciences sociales et avec elles les sciences sociales en général nous permettent de reprendre à nouveau frais la question de la musique elle-même, si tant est que cela existe. En effet, je lis avec profit beaucoup de travaux, et je ne parle pas spécialement de nos étudiants, où toutefois la musique est une sorte de boîte noire qu'on arrive à connaître que par ce qu'en disent ceux et celles qui la font, la diffusent, l'écoutent, et restent plutôt discrets sur le lien entre ces discours et la boîte en question. Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Parler de musique de manière rigoureuse a toujours été difficile, et cela a donné lieu à toute une littérature sur son caractère ineffable, intraduisible, insaisissable, insignifiant, et ainsi de suite. Ces idées ont coexisté avec des techniques d'analyse très sophistiquées qui, toutefois, non seulement se servaient d'un vocabulaire peu partageable, pour ne pas dire d'un jargon, mais en outre se focalisaient sur des aspects partiels du phénomène sonore, les auteurs par exemple, et qui, tout en donnant la primauté à la vue, puisqu'il s'agissait de partitions, impliquaient souvent une suspension méthodologique du flux temporel. Il est vrai que certains chercheurs spécialisés, par exemple dans le rock ou la pop, ou encore plus certains ethnomusicologues, mais aussi nombre de musicologues travaillant sur la musique classique ou contemporaine, sont restés attentifs à cette question centrale de la temporalité. Par exemple, ce n'est qu'un détail, mais il est parlant, en identifiant les moments spécifiques dans une œuvre par le minutage d'un enregistrement au lieu d'un numéro de mesure. Par ailleurs, certains apports en philosophie de la musique, comme ceux de Gerald Levin, sont bien connus dans cette maison, ont permis de relativiser l'importance de l'architectonique des œuvres, c'est-à-dire leur forme entendue comme une structure hors du temps, au bénéfice d'une étude de leur perception dans la durée. Cette évolution est en cours, notamment parce que des logiciels d'analyse musicale conçus avec ce genre de questions en tête sont en plein développement dans différents endroits, et notamment ici à l'EHESS, grâce à Marc Chemillier qui travaille avec nos amis de l'IRCAM. Mais il faudra encore attendre pour que ces outils informatiques ne se banalisent et intègrent la boîte à outils courante des étudiants et des chercheurs, et aussi pour que ces mêmes outils incluent dans leur palette de ressources tous les paramètres pertinents pour l'étude de la signification. Et de toute manière, leur existence ne nous dispense pas, bien au contraire, d'une réflexion épistémologique sur ce qu'ils font, sur ce que nous voulons leur faire faire, sur la manière de mettre en relation leurs résultats avec les discours sur la musique produits par l'ensemble des acteurs, ainsi que sur le rôle que, quoi qu'il arrive, continueront à jouer nos propres oreilles. En attendant, nous continuons bien sûr à bricoler des manières de décrire la musique, quel qu'en soit le genre, le lieu ou la période, et je dirais aussi la musique telle qu'elle est écoutée par quelqu'un. Pour ne pas rester complètement dans l'abstrait, je dirais que dans mon cas, je n'ai pas recours à des outils informatiques, mais plutôt à certains acquis de l'analyse musicale, couplés aux acquis de la critique de cette même analyse que je mobilise dans une perspective pragmatique et écologique au sens gibsonien. Je passe là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune méthode ne peut aspirer à un statut hégémonique comparable, par exemple, à celui qui a été, voici quelques années, surtout aux États-Unis, celui de courants comme l'analyse schenkerienne ou la set theory, entre autres. Le pluralisme est ici de mise, vu notamment la diversité des genres et des situations sur lesquelles nous nous penchons. Et l'une des questions qui, à ce propos, m'intéresse le plus, c'est celle de l'apport que peuvent faire des chercheurs qui, sans s'occuper de musique, travaillent sur des phénomènes temporels, dont des historiens, des philosophes et d'autres, ainsi que sur leur articulation avec les questions spatiales, qui soulèvent d'ailleurs de plus en plus d'intérêt. Il reste que les sciences sociales entendues au sens restreint n'ont pas jusqu'ici fourni, je crois, d'outils spécifiques pour parler de musique, et inversement que la musicologie n'a pas proposé de véritable passerelle entre la description de la musique et celle de la société. Chez les musicologues, cela a d'ailleurs nourri la distinction normative entre analyse et description, qui a été l'un des présupposés de l'institutionnalisation de l'analyse musicale et qui m'a toujours semblé un malentendu dommageable. En effet, je suis persuadé que l'analyse musicale n'est que le nom d'un ensemble de techniques de description et qu'à son tour, la description des objets musicaux relève de la même épistémologie que celle de n'importe quel autre objet du monde social, dont par exemple l'exigence même d'un moment descriptif au cœur de la recherche, mais aussi l'impossibilité de toute description exhaustive, le caractère situé de toute description, l'intrication entre description et interprétation, la tension entre langage émique et langage éthique, pour utiliser ce vocabulaire, et ainsi de suite. Cela m'amène pour finir à remarquer que jusqu'ici, la musicologie n'a pas été pensée comme faisant partie des sciences sociales, mais plutôt, on l'a vu, des sciences humaines, quitte à ce que, comme on l'a vu aussi, cette insertion soit elle-même assortie de pancartes concernant son autonomie, voire une différence entre ces deux domaines. Cela encore contribue à rejeter la question de la signification dans les marges, dans la mesure où c'est contradictoire avec le projet de comprendre la musique comme fait social, ce qu'elle est incontestablement, car que pourrait-elle être d'autre ? La pleine insertion des études musicales dans les sciences sociales, ainsi que les points communs entre la musique et d'autres objets artistiques ou d'autres pratiques culturelles, nous permettent d'envisager la description de la musique comme une partie normale de la description du monde. Et cela, loin d'abolir la légitimité des techniques spécifiquement adaptées à cet objet, qu'on l'appelle d'ailleurs analyse ou description, qu'il soit informatisé ou pas, tout cela en renforce au contraire la pertinence. Et cela vaut aussi, me semble-t-il, même si les personnes ici, dont beaucoup de mes amis, ne seront pas forcément d'accord, pour des phénomènes aussi résistants aux catégories habituelles des sciences sociales qu'un style littéraire ou un langage iconographique, et ainsi de suite. Sur cette voie, je pense que c'est la distinction entre sciences humaines et sciences sociales qui, malgré son ancrage historique et institutionnel, dont témoigne par exemple le nom de l'INSHS du CNRS, entre autres, me semble au fond peu pertinente. Je crois en tout cas, et je conclurai là-dessus en sachant que c'est un point de débat possible, que les travaux collectifs sur la littérature et les arts menés au sein de l'EHESS, dont les travaux sur la musique, qui est bien une école de sciences sociales, ont, entre bien d'autres choses, contribué à montrer cela. Merci.
Merci beaucoup Esteban pour cette conclusion avisée programmatique, cette coda pour employer un terme musical. On va faire une petite pause, mais auparavant, on va quelques courtes questions parce qu'on voit que le temps avance.
Excuse-moi. Bonjour. Moi, j'ai apprécié ce que vous avez dit. J'aimerais parler un peu plus. Parce que j'ai écrit un article qui s'appelle « Confucius et la musique ». Et alors, en ancienne Chine, il y a 3000 ans, la musique a été conçue comme un système politique pour modérer la tension entre les gens de différentes classes. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci. Je n'ai pas vraiment de réponse, puisque ce n'est pas une question. Ce que je remarque à ce propos, c'est que l'articulation entre musique et politique, elle est très, très ancienne. Vous avez rappelé Confucius. Je ne me priverai pas, pour ma part, de rappeler le nom de Platon. Et depuis, on n'a pas cessé de tisser de manière différente cette question dans différents lieux et avec différentes pratiques.
Oui, c'est juste, vous avez parlé du lien, donc ici, l'ancrage ici en sciences sociales, enfin dans les sciences sociales et sciences humaines. Moi, je pensais aux formations quand on va dans des conservatoires de musique. Bah, pourquoi aujourd'hui on n'a pas, pas de sciences sociales? Moi, j'ai fait une formation musicale, effectivement, et je crois que c'est toujours la même chose, hein, sauf si ça a changé, dans des conservatoires où on ne voit pas arriver, il me semble qu'on ne voit pas arriver, alors il pourrait y avoir de l'analyse musicale, des choses comme ça, mais quelque chose de plus fort concernant, au sein de ces institutions qui forment à la musique, quelque chose de beaucoup plus fort. Enfin, en sciences sociales, donc voilà, c'était juste savoir est-ce qu'il c'est une direction dans laquelle aussi il faut aller. Je ne sais pas.
Alors, je ne peux pas répondre sur les conservatoires en général. Ce que je peux noter rapidement, c'est que, par exemple, au conservatoire au CNSM de Paris, il y a un historien de la musique, Rémi Campos, qui est tout à fait proche de beaucoup de choses que nous faisons ici. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je crois. Il a fait une partie de sa formation ici. Et donc, ce dialogue, il est tout à fait engagé déjà. Et je constate aussi que les questions que nous travaillons sous le label sciences sociales sont de plus en plus présentes dans le champ de la musicologie. Donc, cette musicologie traditionnelle dont parlait François Descale en 1979, elle est, je crois, beaucoup moins traditionnelle aujourd'hui. Et donc, cette intégration entre musicologie et sciences sociales, indépendamment de ce qu'on peut, disons, mettre dans le périmètre de l'école de nos études en particulier, elle est en train de croître.
Oui, je voulais savoir si vous établissiez dans tout le volet d'études que vous présentiez des rapports avec l'art contemporain. Je pense notamment à Anish Kapoor, à l'œuvre qu'il a présentée à Milan, qui est Dirty Corner. Et elle se présente comme un pavillon d'oreilles, mais aussi, voilà. Et elle est profonde, elle fait 60 mètres, et c'est une expérience sensorielle absolument incroyable sur la question de l'écoute, de la disponibilité, voilà.
Merci pour cette question. J'aimerais bien pouvoir travailler davantage sur ce type d'art, et parce que la question des installations sonores, et, comme vous l'avez dit, est devenue une tendance tout à fait actuelle. Et donc, la présence d'une artiste qui pratique une forme d'installation sonore au pavillon français à la Biennale de Venise en ce moment en est un exemple parmi d'autres. Cette idée que la spatialisation du son, qui a été l'un des grands thèmes du GRM notamment, de toute la technologie du temps réel qu'a développé Pierre Boulez à l'IRCAM et de plein d'autres courants. Et d'ailleurs, bien sûr, on peut remonter bien en amont. Ça commence souvent avec Gabrielli à l'époque de la Renaissance. Enfin, que cette question de l'espace, de la mise en espace, de l'esthétique spatiale, de la temporalité musicale, elle est devenue un sujet de plus en plus important pour les musiciens, pour les musicologues, pour les philosophes qui réfléchissent sur ces questions. Et personnellement, je trouve ça tout à fait fascinant.
Merci déjà pour cet exposé très riche et dense sur toute cette histoire des rapports entre musicologie et sociologie. J'avais peut-être juste une question concernant justement cette place de l'écoute. D'ailleurs, je crois qu'il est un petit peu antérieur à 2001, mais si tu dis de la musique à l'écoute et retour, ça veut dire que l'écoute est extérieure à la musique. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'elle est finalement aussi très présente? C'est quelque chose qui d'ailleurs a été assez marginal dans les travaux sur l'écoute, dans les pratiques même des musiciens, des compositeurs, etc. Donc est-ce que cette manière de les écarter, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une piste pour essayer justement de les penser, pas comme deux objets distincts et différents, mais vraiment intriqués?
Oui, merci Sophie. Bien sûr, j'ai essayé de le dire à un moment, mais j'étais déjà parti sur mon schéma de l'aller et du retour, donc peut-être que ça me permet de souligner au passage, il n'a jamais été question pour moi de dissocier la musique de l'écoute dans la pratique. C'était juste essayer brosser, disons, d'une ligne un peu grossière, une certaine tendance dominante dans la manière de l'aborder, cette question de la musique en tant qu'elle est une pratique d'écoute. Et puis tu as raison aussi, bon, j'ai mentionné le livre de Peter parce qu'il a vraiment marqué, ne serait-ce que en termes de diffusion à un moment. Si on peut citer d'autres références, il y a le Listening Paris de James Johnson et d'autres textes que tu as travaillés. Et puis si on fait une généalogie de ces questions, bien sûr que la perception des phénomènes musicaux a toujours été là d'une certaine manière. Donc, bon, je précise, oui, c'était à des fins de simplification pour aller vite. Mais cela dit, je pense qu'il y a vraiment des évolutions méthodologiques dont j'essayais de tenir compte en résumant ça, qui était plus... c'est un raccourci, c'est le cas de le dire. Oui.